ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Mariam Sebrak. Bonjour Mariam, merci d'être venue. Vous êtes bibliothécaire, vous êtes musulmane chiite et vous êtes dans le groupe de la prière des mamans.
Oui, bonjour Benoît, merci pour l'invitation.
Alors, j'aime bien demander à mes invités d'où est-ce qu'ils viennent. Hein. Vous êtes toulousaine de naissance.
Oui, je suis toulousaine.
Maman ariégeoise.
Oui.
Et puis, la particularité quand même, vous êtes partie en Syrie parce que votre papa travaillait là-bas, artiste, peintre.
Alors, mon père est né, il a grandi, il a fait ses études et il a enseigné aussi en Syrie. Il est venu tardivement en France. Il est artiste, peintre. J'ai vécu avec mes frères 2 ou 3 années en Syrie, mais ça remonte à il y a 30 ans. Voilà.
Dans l'amour des livres, dans l'amour de l'art.
Oui.
De ce qui est beau, et puis la recherche, une recherche d'observer le monde.
Oui, parce que c'est vrai qu'avec mes parents, ma mère, juste pour présenter ma mère aussi, qui est restauratrice de tableaux, à la maison, on parlait beaucoup de religion.
Sans forcément la pratiquer, parce que justement, il y avait plusieurs confessions chez les grands-parents, oncles et tantes, donc une grande diversité de croyances et de convictions.
Alors, ma mère était fille unique, issue d'une fille unique, et dans sa famille, il y a effectivement dans les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on trouve plusieurs confessions, des protestants, des catholiques, donc voilà.
Une forme de petite nation française avec la laïcité qui est la diversité.
Oui, certainement.
Sans jugement des autres.
Voilà. Du coup, dans mon adolescence, moi, j'étais quelqu'un de solitaire. J'ai beaucoup baigné dans les livres, dans les discussions aussi avec mes parents qui parlaient énormément de religion, de philosophie, de la religion, questionnaient énormément la société. Il y a des choses auxquelles je réfléchissais déjà, ne serait-ce que par rapport à ce qui me dérangeait dans leur manière de transmettre les choses. En tout cas, le questionnement, la réflexion a beaucoup imprégné mon adolescence et a attisé ma curiosité.
Et des études de sociologie à l'université.
Oui, c'est sans doute ça qui m'a mené à choisir la sociologie.
Et la diversité aussi des livres qui vous faites travailler comme dans une bibliothèque de la région de Toulouse.
Oui, j'ai choisi après avoir terminé mes études de sociologie. En fait, je me suis tournée vers la bibliothèque parce que ce métier-là, c'est travailler entouré de livres, quelque chose qui me plaisait énormément. Mais j'ai découvert en fait un métier, je ne l'imaginais pas tel. De cette façon-là, en fait, mais je l'aime énormément parce qu'en fait, c'est un métier où il y a énormément de diversité au sein des publics que l'on reçoit, dans la manière de programmer les animations auprès des auteurs, les disciplines. La bibliothèque est un lieu qui doit être représenté, qui doit proposer dans ses collections.
L'actualité, il y a les romans, il y a les études.
Voilà, la bibliothèque doit être assez représentative, en fait, de l'édition. Des éditions qui paraissent, des courants, des pensées, des opinions, des domaines de la connaissance. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément de baigner là-dedans.
Ouverture sur la radio, sur la télévision ou plutôt non? C'est
non,
plutôt l'écrit.
C'est plus l'écrit, mais il y a tous les supports aussi. Et surtout la diversité des publics auxquels on a affaire. Et c'est extrêmement enrichissant et c'est ce qui me plaît.
Et il y a le choix de Cyril, ou plutôt Cyril vous a choisi. En tout cas, le grand amour. Les 4 filles.
Oui, j'ai rencontré mon mari à l'université. On a énormément discuté et moi, ce qui me plaisait chez lui, c'est c'est quelqu'un qui réinterroge constamment le monde, ce qui l'entoure, les évidences. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, que l'on soit constamment en train de remettre en question ce qui paraît évident, ce qui paraît naturel. Et ça m'a permis aussi de réinterroger ma foi, ma religion, et de la vivifier, en fait.
Et Cyril nous a fait l'honneur de venir ici il y a 2 ans, puisque c'était la 3e personne qui est venue nous parler de sa foi, de ses convictions. Il anime avec Michel Jacolin le GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien. C'est un gros travail, il faut relancer alors cette période de coronavirus. Et Cyril, donc on peut réécouter bien sûr son émission. Il est éducateur spécialisé.
Oui.
Et il travaille dans les quartiers. Mais c'est le papa de ses filles.
Oui, alors juste je rectifie parce qu'il travaille, je disais, il travaille pas dans les quartiers, il travaille dans un CMPE, dans un ITEP, auprès de jeunes filles.
Institut, ITEP.
Thérapeutique, je sais pas, d'insertion, oui, oui. Quelque chose. Je sais pas du tout.
C'est pas grave, non, mais c'est de l'insertion des
voilà,
personnes
en tout cas, éducateur spécialisé.
Avec handicap. Et
oui.
Oui. Alors, c'est d'abord Narcisse.
Nargis,
j'ai le prénom français. C'est tellement beau, c'est la fleur, mais c'est aussi la mère du 12e imam.
Oui.
Chez les sites, c'est important. Oui. Cet imam que nous attendons, c'est pas tout à fait comme le Messie chez les Juifs ou Jésus chez les chrétiens, mais cette attente de celui qui va nous apporter. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même
qui va peut-être apporter une certaine justice sociale.
La justice, oui, oui. Elle a 14 ans, elle est chez les scouts.
Oui.
Et puis il y a sa sœur qui la suit, qui est Alia, c'est Alia, le nom féminin d'Ali.
C'est ça, 12 ans.
Oui, c'est des prénoms qui sont tout un programme pour ces jeunes filles parce qu'elles baignent dans un milieu de spiritualité et de prière.
Autant que possible, autant qu'on peut, dans la limite de nos moyens certainement.
Pas forcément la pratique à la mosquée, pas forcément tous les jours la prière, mais une réflexion en famille.
Si, on a plaisir quand même à faire les prières avec elle. Elle participe à la vie de la maison, elle participe à la réflexion que l'on peut avoir sur ce qui se passe. De toute manière, elle, étant inscrite dans une école publique, elle apporte aussi ce qu'elle, elle voit, comment elle perçoit aussi le monde, et on s'enrichit aussi de leur vision des choses.
Sans forcément s'afficher, mais au moins être, avoir le plaisir de ce que l'on est avec Zaïda, la spirituelle, c'est oui. Le sens du prénom, et puis Zoukaïra.
Zoukaïna. Nargis, Alia, Zaïda et Zoukaïna.
C'est pas des conflits, mais c'est des sourires. Vous avez apporté une musique, justement, qui, avec du rap,
oui.
Il y a de l'ambiance dans la famille, et puis c'est plein de sourires.
Oui, juste j'ai choisi ce morceau-là, en fait, parce que le titre me faisait sourire, me donnait le sourire, puisque c'est le « You make me smile ». Et parce que dans son texte, en fait, il décrit « Si j'aime autant mon fils, ce n'est pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce que je suis depuis qu'il est venu au monde ». Et pour moi, c'était cette phrase-là qui me touchait, puisque j'ai grandi aussi grâce à mes enfants. Et également, c'est un texte qui rend hommage à toutes les personnes qui l'ont aidé à grandir, qui l'ont aidé à être plus proche de lui-même. Et donc, c'était aussi pour penser à toutes les personnes que moi j'ai fréquentées, que je fréquente.
Alors, nous l'écoutons.
Qui m'aident à grandir.
Merci.
Y'a tous ces rêves que je promène, plaid d'arrêt mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes, les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses, perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées, je suis une fourmi. Mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. J'sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon égo. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain.
You make me.
Tourments et
échappe à certains. Pourtant il parle à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain.
On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Mariam Sévrac. Vous êtes bibliothécaire et vous venez nous parler de la prière des mamans.
Oui.
D'où la bonne transition. Hein. J'ai pas envie de fuir. On prie même dans les pires moments. Mais la prière, c'est pas que quand on en a marre et qu'on pleure. C'est aussi de rendre grâce.
Tout à fait.
De dans s'ouvrir à l'autre, dans
bien
la joie.
Sûr. Et être reconnaissant pour ce que l'on reçoit, pour ce que l'on vit. Oui, la prière des mamans, en fait, c'est quelque chose qui est en place depuis maintenant 2 ans, suite à justement une intervention que nous avions faite avec Cyril et un autre couple chrétien au Gaïc.
La journée toulousaine de la rencontre islamo-chrétienne qui fait sur Toulouse une manifestation qui existe au niveau national. Et nous verrons peut-être tout à l'heure au niveau international.
Et c'est la thématique de l'intervention était autour de la question d'être parent aujourd'hui. Et sans doute, comment est-ce que notre foi nous aide à être parents et comment est-ce qu'on la transmet à nos enfants. Donc j'avais parlé effectivement de la difficulté que l'on pouvait avoir en tant que maman face au quotidien. Du fait que ça faisait du bien aussi de savoir que ça puisse être difficile aussi pour d'autres mamans. Et la force que peut nous apporter la foi, en nous donnant de la persévérance dans les moments difficiles, être confiante aussi en Dieu, avoir confiance en Dieu et dans sa miséricorde vis-à-vis de nos enfants. Toutes ces questions-là, en fait, on en a discuté à ce moment-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que de se dire que nos enfants ne sont pas nos enfants, c'est-à-dire qu'ils sont des dépôts. Dieu nous les dépose, on a une responsabilité vis-à-vis de Dieu dans leur
éducation,
une responsabilité pour les éveiller aussi à la diversité dans le monde, les éveiller à la beauté du monde, mais aussi leur donner le courage, l'envie aussi de changer ce qui ne va pas, ce qui pourrait être changé. Et voilà, donc...
Il y a aussi ce tiers-lieu éducatif qui est le scoutisme dont nous avions parlé rapidement. Rencontrer les autres, ce tiers-lieu éducatif.
Oui, alors c'est une démarche aussi qui fait partie de notre manière aussi d'envisager l'éducation de nos enfants, puisque pour nous c'est important qu'elles s'inscrivent dans la société, qu'elles participent à la société, qu'elles s'interrogent et qu'elles fassent quelque chose dans la société où elles sont aujourd'hui inscrites. Donc pour nous, il est important qu'elles sachent quelle est cette société, qu'elles aient un regard critique et qu'elles donnent leur rapport et qu'elles vivent avec leur temps. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on apprend énormément d'elles, puisque c'est un jeu constant entre ce qu'elles nous apportent et ce que nous on peut leur apporter. Et pour nous c'est important d'être dans le dialogue et d'être dans l'écoute de ce qu'elles vivent.
Voilà. Alors les mamans, elles se retrouvent une fois par mois.
Oui, alors
chez
suite
l'un,
à notre
chez l'autre, mais coronavirus, ça pose problème et par
alors,
Zoom.
Suite à notre intervention, effectivement, Odile est venue me voir. Elle a souhaité ouvrir cette prière des mamans en s'inspirant de la prière des mères. Et nous nous réunissons donc une fois par mois. Et encore aujourd'hui, malgré le confinement ou le couvre-feu, on le fait par visio.
Oui, mais il y a d'autres problèmes théoriques ou théologiques. Vous m'avez dit, non, on ne va pas parler de théologie.
Alors, vous m'avez passé un texte justement qui parle de rassemblement de prières.
Il y a des chrétiens, il y a des catholiques qui vont dire, non, on n'a pas le même Dieu, on ne peut pas prier ensemble. Allah, ce n'est pas,
alors,
pas Dieu.
Si, nous avons le...
Si, ah ben, vous êtes convaincus. Ma foi, j'y crois, mais il faut que vous convainquiez que, oui, la religion, ce n'est pas la guerre. La religion, c'est au contraire la recherche.
Tout à fait, je pense qu'il y a tout à fait moyen d'œuvrer ensemble pour la paix, d'œuvrer ensemble pour une société meilleure. Et, alors, la prière des mamans reste modeste, mais c'est vrai que l'on se réunit pour prier pour les enfants, pour nos parents, pour les mères qui sont en difficulté, pour les mères qui ont perdu des enfants. Et c'est important pour nous de nous réunir avec cet objectif. Et vous, dans le texte que vous m'avez fait parvenir,
C'est Michel Younès qui est un spécialiste des relations entre les chrétiens et les musulmans, mais c'est aussi ceux qui s'inspirent de ce jésuite qui a créé le monastère entre la Syrie et Paolo Dall'Iglio. On ne va pas parler de lui aujourd'hui, sinon pour dire qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis 5 ans. Et dans ce monastère de l'église syrienne fondée au XIe siècle et qui est remis au goût du jour. Ce qui est important à dire, je crois, ce groupe Al-Khalif, c'est pas seulement vous à Toulouse, c'est aussi en France et dans le monde entier. Dieu n'est pas chiite ou sunnite, Dieu n'est pas orthodoxe ou catholique, et il est celui qui sait tout, celui qui nous fait miséricorde et à qui on peut dire nos soucis et nos joies.
En tout cas, on s'appuie sur notre foi commune, notre foi personnelle pour œuvrer en commun dans un objectif. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'acte de solidarité. Parce que c'est un acte de solidarité intérieure commune. Après, nous venons chacune avec nos intentions. Et ce qui est important, c'est ce que l'on partage, en fait. C'est ce qui m'intéresse, moi, personnellement, dans cette prière des mamans. C'est que l'on soit ensemble pour un projet commun avec une intention positive et optimiste sur le monde.
Ce qui n'empêche pas aussi, d'un autre côté ou par ailleurs, que vous récitiez le Coran en arabe et que vous lisiez ensemble ces dernières sourates qui sont toutes petites, parce qu'on ne va pas dire la sourate de Marie, de Myriam, c'est la sourate qui est assez longue, la sourate dans le Coran que chacun pourra lire pour dire, ils ont copié chez les juifs ou chez les chrétiens. Mais le livre saint, le livre révélé, pour vous, c'est une source d'inspiration pour vos enfants, pour les mamans.
C'est un support de réflexion, je dirais, puisque après, seul, ça n'apporte... Si l'on considère que le Coran est de la parole de Dieu, on ne peut pas l'appréhender simplement en le lisant une fois ou en le lisant uniquement lui, tout seul. Je pense que c'est les apports de toutes les disciplines, de toutes les connaissances acquises au fur et à mesure des siècles que l'on peut apprendre à le comprendre ou ne serait-ce que le saisir. Donc pour moi, c'est important de relier tout ça avec les disciplines la science humaine, les sciences, de manière générale. Et tous ces éléments-là viennent enrichir notre compréhension du Coran.
Le contexte dans lequel il était écrit, comme... Les exégètes réfléchissent au contexte dans lequel la Bible a été écrite. Est-ce que Jésus a bien dit cette phrase, cette parole-là, ou est-ce qu'on lui a fait dire 50 ans après? Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'études actuellement sur l'historicité du Coran et surtout la place de la femme dans la société telle qu'elle est mal perçue, peut-être, parfois, par d'autres, par certains. Vos filles, vous m'avez dit, le modèle de tous les possibles à travers leur prénom.
Oui, alors...
Chacun s'assume dans sa vérité.
Tout à fait. Alors, pour moi, il y a une figure marquante dans l'histoire, en islam. C'est Fatima, la fille du prophète, puisque pour moi, elle représente ce que vous dites, tous les possibles de la femme. C'est-à-dire que Fatima est une grande personnalité, elle représente la raison et l'amour. Elle est née dans une période, dans une société patriarcale, où la femme était entière et vivante, où la femme était considéré comme
un objet d'échange.
Un objet d'échange, sans droit, relégué à un rôle simplement
procréateur,
voilà. Et elle apparaît là, à ce moment-là, et elle révolutionne complètement la position de la femme et la façon dont on peut percevoir les femmes. Pour moi, c'est un modèle parce qu'elle est, elle est spirituelle, elle est mère, elle est femme, elle vit dans sa société, elle agit dans sa société, elle a une place et un rôle important dans la société, elle a été militante, elle s'est battue pour ses droits, elle a pris la parole face aux dirigeants qui ne lui donnaient pas son droit, elle s'est battue pour ses droits, elle a soutenu son mari, elle s'est battue à ses côtés. Si vous voulez, pour moi, elle est, ce que je disais, tous les possibles. Elle est, je disais, la raison et l'amour, parce que l'une est la lumière et l'autre est le mouvement. La raison fait naître la conscience, la connaissance et la vision des gens, et le mouvement engendre la force, l'enthousiasme et l'animation. Et moi, ce que je souhaite, c'est transmettre ça à mes filles, qu'elles prennent en main leur vie. Et je pense que c'est une figure importante pour les femmes qui veulent choisir par elles-mêmes, qui veulent choisir pour elles-mêmes et se forger.
Ma foi, j'y crois. Les convictions solides.
Et qu'elles accèdent à l'indépendance et à l'autodétermination. Voilà, moi, c'est ce qui est important pour moi. C'est ce qui me dirige.
Et
être
vous avez...
soi-même et authentique.
Et vous avez aussi apporté un poème.
Oui. Alors, c'est un poème tiré du livre de Ali Shariati, qui est un intellectuel de l'islam réformiste contemporain. Il est né en 1933 en Iran. Il est sociologue. Il a été élève de Louis Massignon et un ami de Sartre. Ça, c'est pour le situer. Et il a écrit Fatima et Fatima. Et à la fin de son livre, dans l'épilogue, il dit ceci. « J'ai voulu imiter l'un des plus grands tribuns de France qui dit un jour, à propos de Marie, devant le roi Louis. 1700 ans que tous les tribuns du monde en parlent. 1700 ans que tous les philosophes et les penseurs de tous les peuples, en Orient comme en Occident, expliquent les qualités de Marie. 1700 ans que les poètes œuvrent de toutes leurs forces et de tous leurs talents pour faire l'éloge de Marie. 1700 ans que tous les artistes, les peintres et les sculpteurs produisent des œuvres magnifiques pour faire apparaître la douceur et la beauté de Marie. Mais tous ces mots, toutes ces paroles, toutes ces pensées et ces efforts au cours de tous ces siècles n'ont jamais réussi à faire apparaître la magnificence de Marie comme l'ont fait ces quelques mots. Marie est la mère de Jésus. J'ai voulu parler de Fatima de la même manière, mais je n'ai pas réussi. J'ai voulu dire Fatima est la fille de la grande Khadija, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la fille de Muhammad, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima est la femme de Ali, mais ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la mère de Hassan et de Hussein, mais ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la mère de Zainab, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. Non, tout cela est Fatima, mais ce n'est pas tout Fatima. Fatima est Fatima. Voilà, c'est pour dire cette personnalité unique. Dans laquelle, en fait, toutes peuvent puiser. Et je la retrouve également dans des personnes et des femmes que j'écoute et qui sont inspirantes pour les autres et qui nous aident à grandir humainement et à mieux comprendre ce que l'on peut ressentir, à mettre des mots sur ce que nous sommes en tant que maman, mais en tant que femme également.
Et aussi dans son métier comme bibliothécaire. On n'est jamais eu un seul côté de ces multiples dimensions.
Tout à fait.
On est parfois un puzzle qu'il faut essayer de recoller, ressoudre les morceaux, mais aussi on est grâce aux autres tendu vers un but, l'éducation des enfants, vers le métier et aussi la contemplation et la sauvegarde de la nature, comme nous le redit le pape François, et comme d'ailleurs les musulmans d'Istanbul à Paris, ce ne s'est jamais assez connu, ont répondu au pape en disant « Nous sommes responsables de la création,
tout à fait.
C'est notre maison commune ». Et je pense, malheureusement l'entretien est bientôt fini, mais nous savons assez peu que si nous récitons la Fatiha, peut-être plusieurs fois par jour, ou si les chrétiens récitent le Notre Père, mais le Gloria, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Tout à fait, nous sommes responsables de ce qui nous environne. Nous sommes responsables aussi de la planète. Et je pense qu'on doit être attentif justement à l'impact que nous avons sur l'environnement, sur la nature. Et c'est un point aussi qui me tient à cœur.
Et qui nous apporte la joie, sans
tout
doute.
À fait.
C'est un combat.
Bien
mais
sûr.
Vous nous avez apporté la joie. Merci Maria, mais merci à Christophe pour l'enregistrement.